La prière de l'Angélus, voici une conférence du père Philippe Beitia, supérieur du séminaire de Bayonne, conférence enregistrée le 23 novembre 2017 lors d'une récollection de l'amitié montfortaine à l'église Sainte-Thérèse de Biarritz. La prière de l'Angélus, le père Philippe Beitia.
Comme vous le savez, bien sûr, l'Angélus se compose de trois versets et réponses suggérées par l'Évangile. Donc, Luc 1,28, Luc 1,38 et Jean 1,14. Et de trois « Je vous salue » qui vont suivre ces versets. Donc, premier verset, « L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, auquel on répond, elle conçut du Saint-Esprit. » Second verset, « Voici la servante du Seigneur, on répond, qu'il me soit fait selon votre parole. » Troisième verset, « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Il se termine par une invocation à la Vierge et une oraison que l'on trouve dans le missel de Paul VI, comme oraison du quatrième dimanche de l'Avent, comme oraison de la fête de Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre, avec une petite addition, et dans le missel du pape Jean XXIII, donc d'avant le Concile, comme post-communion pour la fête de l'Annonciation, le 25 mars, et pour les messes de Notre-Dame le samedi, célébrées lors du temps de l'Avent. Voilà. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ et l'oraison, que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Traditionnellement, la cloche sonne le matin, à midi et le soir trois coups pour les versets, avec un petit intervalle de silence, et ensuite, au moins du temps où on sonnait à la main, 33 coups pour rappeler l'incarnation, les 33 années que le Seigneur a passées sur terre. Mais aujourd'hui, avec les sonneries électriques, il est probable que cette tradition ne se soit pas totalement maintenue. Donc les origines de l'Angélus sont lointaines et complexes. Au 5e siècle, les liturgies grecques commencent à saluer la Sainte Vierge avec les termes de l'archange Gabriel et d'Élisabeth. Introduit dans la liturgie latine par le pape Saint Grégoire le Grand, et au 7e siècle, dans la liturgie des églises d'Espagne, l'Ave Maria primitive devient au cours du 13e siècle seulement, d'un usage général dans la piété, et à cette époque, l'usage s'introduit dans les cloîtres, dans les monastères, d'accompagner de la sonnerie des cloches la salutation mariale du soir. On attribue cela aux franciscains qui ont eu une grande dévotion au mystère de l'enfance du Seigneur et donc de ce fait à l'Annonciation. Et cet usage va se généraliser rapidement au XIVe siècle et le pape Jean XXII, 1316-1334, approuve la coutume de l'église de Sainte en 1318 et introduit la pratique à Rome le 7 mai 1327. À l'Angélus du soir va s'ajouter bientôt la salutation du matin. On le trouve en Italie. Cela se répand dans toute la chrétienté au XIVe siècle. Et l'Angélus du midi est de date postérieure. À la fin du XIVe siècle et au XVe, la sonnerie du midi n'a lieu que le vendredi pour honorer la Passion. En France, elle est d'usage sous Louis XI pour implorer la paix du royaume. À Rome, elle est prescrite par le pape Calixte III en 1456 pour demander la victoire de la chrétienté sur les Turcs. Sous Sixte IV, qui décède en 1484, ces usages divers ont généralement disparu, mais l'unification est achevée. Les trois sonneries de cloches qu'accompagnent la récitation de « Je vous salue » ont seulement pour but d'honorer Marie dans le mystère de l'incarnation. Et au XVIe siècle, on va introduire l'usage de séparer les trois « Je vous salue » par trois versets et leurs réponses qui sont sensiblement les mêmes que ceux en usage actuellement. Donc on trouve cela imprimé à Rome au temps du pape Pie V, à la fin du XVIe siècle, et dans des livrets de dévotion. Et l'oraison apparaît vers la fin du XVIe siècle. Donc les papes, et surtout le pape Léon XIII, 1878-1903, ont déterminé la pratique actuelle de l'Église et enrichi de nombreuses indulgences cette dévotion. Et on peut penser, dans l'art, au tableau de Millet et de Palézieux qui représente l'Angélus. Mais voilà, pour l'anecdote, tout le monde n'est pas près de l'Église, tout le monde n'a pas de téléphone portable qui sonne, qui indique les trois moments. Alors, des paysans sont au champ, loin de l'église, comment faire pour dire l'Angélus? Donc on s'est adressé au pape Léon XIII, il y a eu diverses demandes, et Léon XIII permet à ceux qui ne peuvent pas entendre la cloche qui annonce l'Angélus de le dire aux trois moments de la journée, et s'ils n'en ont pas le texte, ou s'ils ne le savent pas de mémoire, de dire « Saint, je vous salue Marie ». D'ordinaire, l'Angélus se dit à genoux, mais tout le monde ne peut pas se mettre à genoux. Et le pape Léon XIII concède que ceux qui ne peuvent pas dire l'Angélus à genoux, le disent debout ou assis. Plus près de nous, dans l'exhortation apostolique Marialis Cultus du 2 février 1974, le bienheureux Paul VI invite les catholiques à garder l'habitude de dire l'Angélus. Voilà ce qu'il écrit. Nos propos sur l'Angélus veulent être seulement une simple mais vive exhortation à conserver l'habitude de le réciter lorsque et là où c'est possible. Cette prière n'a pas besoin d'être rénovée. Sa structure simple, son caractère biblique, son origine historique qui la relie à la demande de sauvegarde dans la paix, son rythme quasi-liturgique qui sanctifie divers moments de la journée, son ouverture au mystère pascal qui nous amène, tout en commémorant l'incarnation du Fils de Dieu, à demander d'être conduit par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, font que, à des siècles de distance, elle conserve inaltérée sa valeur et intacte sa fraîcheur. Il est vrai que certains usages traditionnellement liés à la récitation de l'Angélus ont disparu ou peuvent difficilement subsister dans la vie moderne, mais il s'agit d'éléments marginaux. La valeur de la contemplation du mystère de l'incarnation du Verbe, de la salutation à la Vierge et du recours à sa miséricordieuse intercession reste inchangée. Et malgré les conditions nouvelles des temps, ces moments caractéristiques de la journée, matin, midi et soir, qui délimitent les périodes d'activité et constituent une invite à s'arrêter pour prier, demeurent inchangés pour la majeure partie des hommes. Alors commentons un peu cette belle prière. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, elle conçut du Saint-Esprit. Ce verset et ce répond résument ce que l'on trouve dans le récit de l'Annonciation relaté par Saint Luc. Le projet de Saint Luc est de montrer comment Marie, étant accordée à Joseph, fils de David, Dieu a quand même pu la décider à accepter aussi d'être la mère de son fils, du Fils de Dieu. Les versets 26 et 27 du premier chapitre de l'évangile de Luc indiquent que cet événement a lieu le sixième mois dans le bourg rural de Nazareth. Les personnages sont présentés, l'ange Gabriel, Joseph et Marie, une vierge. Dans le contexte de l'époque, et en Galilée surtout, une jeune fille de plus de 12 ans pouvait être à la fois mariée et vierge. Elle restait un certain temps sous le toit paternel avant que son mari ne vienne l'introduire dans sa maison. C'était la coutume juive. Notons les oppositions. Une opposition entre le plus haut des cieux, d'où vient l'ange, et cette bourgade reculée et mal vue du pays du Nord. Un contraste entre l'ange et Marie, cette jeune fille inconnue. Cela met en relief que le plus grand acte historique de tous les temps, l'incarnation du Fils de Dieu, se fait dans les conditions de la plus grande humilité. L'ange est envoyé. Une révélation va donc se faire. Et cet ange, c'est Gabriel. Or, d'après la Bible, la spécialité, si j'ose dire, de cet ange, ce sont les révélations concernant la fin des temps. C'est ce que l'on trouve dans le livre de Daniel. L'ange, lorsqu'il s'adresse à Marie, la salue en lui disant qu'elle est comblée de grâce, qu'elle est la favorisée de Dieu. Son appel et sa mission sont sous le signe de la providence. Le Seigneur est avec toi. Bien souvent, dans la Bible, lorsque Dieu appelle quelqu'un pour une mission, il lui est indiqué que le Seigneur est avec lui. C'est le cas de Moïse, c'est le cas de Gédéon notamment. Marie a trouvé grâce auprès de Dieu. Elle est la servante du Seigneur. Elle est bénie de Dieu. Sa foi est grande. La forme de salut à la grecque, sois joyeuse ou réjouis-toi, rappelle l'oracle du prophète Sophonie, chapitre 3, 14-17. On peut lire ceci. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre de malheur. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi la joie, sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira. Puisque Jésus est Dieu, Marie est cette fille de Sion, à laquelle on avait dit « Le Seigneur est en toi ». C'est bien le mystère qui va s'accomplir en la Vierge. Elle est cette fille de Sion mentionnée par le prophète. Elle est cette fleur d'Israël qui porte le Messie. L'ange dit à la Vierge qu'elle va concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. L'ange annonce par là l'accomplissement de la promesse faite autrefois au roi David que l'un de ses descendants serait le Messie. Bon, rappelons-nous, c'est au second livre de Samuel au chapitre 7, David veut construire une maison en dur pour Dieu et en définitive le Seigneur lui dit que non, ce sera son fils. Mais que lui, le Seigneur, va lui construire une maison au sens d'une famille. Et, à un moment donné, dans la prophétie de Nathan, adressée à David, il lui dit ceci. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, donc quand tu seras décédé, Je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. » Bon, donc, quand la Vierge entend l'ange, qui reprend cette prophétie, la Vierge comprend bien qu'on lui propose de devenir la mère du Messie attendu par Israël. Elle le comprend, puisque l'ange réutilise les paroles de la prophétie faite à David. L'ange annonce à la Vierge qu'en elle s'accomplira l'oracle d'Isaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. La parole de l'ange est centrée essentiellement sur l'annonce du roi Messie. Jésus sera grand absolument. Il sera appelé fils, comme le roi dont parlent les psaumes. En lui, le règne de David trouvera son accomplissement final. Son règne n'aura pas de fin. La question de Marie sur la manière dont elle va concevoir l'enfant, comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme, permet à l'ange d'aller plus loin. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. La puissance de Dieu couvrira Marie de son ombre. Dans le livre de l'Exode 40-35, il est dit que la nuée divine couvre la tente de la rencontre de son ombre, en sorte que la gloire de Dieu emplit la demeure désormais divine. Cette ombre qui va donc recouvrir la Vierge, hein, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Cette ombre est donc le signe de la présence de Dieu, de cette présence qui était autrefois dans la tente de la Réunion et qui maintenant est en Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi. Vous avez une allusion à Genèse 1-2 et au psaume 103-30. Dans Genèse 1-2, l'Esprit plane sur le tohu-bohu d'où va sortir la création. L'Esprit est comparé à un oiseau qui couve sa nichée pour la faire éclore. Donc, dans Genèse, l'Esprit Saint plane pour donner naissance au monde créé. Et donc, c'est par l'œuvre de l'Esprit Saint, de cet Esprit créateur, que Jésus va se former en Marie, que Dieu et l'homme seront unis dans l'unique personne du Christ, fils de Marie et fils de Dieu. Luc, dans ses mots, met sa confession de foi en la divinité de Jésus. Après avoir désigné en Jésus le Messie, voilà, il le nomme comme son Dieu. Il sera appelé fils de Dieu. Marie est considérée comme la nouvelle arche de l'Alliance, ou la demeure de Dieu dans laquelle vient habiter son Fils. Dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance était le marche-pied de Dieu. Dieu se tenait, puis, si on peut dire, mettait les pieds sur l'arche de l'Alliance, mais donc c'était le signe visible de sa présence. Ou le temple de Jérusalem, bon, voilà, hein, Dieu y habitait, dans le Saint des Saints. Bien, maintenant, hein, la Vierge devient la demeure de Dieu dans laquelle vient habiter le Fils. Autrement dit, Jésus, le Messie-Roi, Fils du Très-Haut, est vraiment Fils de Dieu et Dieu lui-même. Et au moment décisif de l'incarnation, Marie manifeste une double attitude. La foi au message de l'ange, elle ne doute pas, comme Zacharie. Elle pose des questions, comment cela va-t-il se faire? Parce que elle a décidé de garder sa virginité pour le Seigneur. Comment ça peut se faire? Elle pose des questions. On voit que c'est une femme de caractère. n'a pas peur de poser une question à un ange. Et quel ange ? Bon. Voilà. Mais, bon, elle croit. Donc, foi au message de l'ange, et elle va consentir à la volonté divine. Qu'il me soit fait selon ta parole. On peut comparer la foi de Marie avec celle d'Abraham. Mais voilà, Abraham, qui était âgé, sa femme stérile, Dieu leur promet d'être à l'origine d'une postérité aussi grande que les étoiles du ciel et que les graines de sable. Bon, Abraham, il se dit comment, là aussi, il se demande comment ça peut faire. Bon, je suis vieux, ma femme est âgée. Bon. Mais bon, il y croit, et donc, il aura ce fils Isaac. Et Abraham est regardé comme l'exemple de la foi chrétienne. Ce qui a été réclamé à Abraham, la foi qui a été réclamée à Abraham, est maintenant demandé à une femme. Par sa foi, Marie n'engage plus seulement la destinée du peuple juif, mais le salut de l'humanité. Elle a comme objet non plus la fécondité accordée à une femme stérile, à Sarah, mais la maternité donnée à celle qui veut demeurer vierge. La foi signifie un appui recherché dans la puissance de Dieu qui dépasse les possibilités humaines. Donc la foi de Marie consiste à adhérer à ce qui est dit de la part du Seigneur. Concrètement, pour la Vierge, la foi en la parole de Dieu est une foi en la venue de l'Esprit-Saint annoncée par l'ange. Et cette foi de Marie permet la génération virginale du Christ. Cette conception par la foi souligne un autre aspect. Avant d'accueillir le Fils de Dieu dans sa chair, Marie la toute sainte, en laquelle ne se trouve nul obstacle à la volonté, à l'action de Dieu, avait déjà accueilli le Verbe, le Fils de Dieu, en elle. Elle l'avait accueilli dans son cœur et dans son âme. Elle était déjà le temple du Très-Haut. Maintenant, par la puissance de l'Esprit-Saint, le Fils de Dieu, déjà présent dans son cœur et dans son âme, prend chair en elle. Bon, cette foi de Marie est une foi en développement. Marie n'a pas eu dès le début une connaissance totale du mystère de son Fils. Elle a découvert, au fur et à mesure, de nouveaux aspects de la personne de Jésus. Ben, alors on peut se poser la question. Quelle connaissance de la Vierge avait-elle au moment de l'incarnation, de l'annonciation du mystère de Jésus ? Bon. Elle voit bien que on lui demande d'être la mère du Messie. Donc voilà. Ça, elle comprend que elle va devenir la mère du Messie. Bien. Mais dans un premier temps, elle ne comprend pas que ce Messie est Dieu. Et heureusement, dans un premier temps. Parce que si à l'Annonciation elle avait été avertie que son fils était Dieu, Marie aurait été gênée dans son affection maternelle. Éduquée dans la religion juive, elle aurait manifesté un respect tremblant devant celui en qui elle devait reconnaître le Dieu Tout-Puissant. Elle n'aurait plus été pleinement elle-même dans les gestes maternels nécessaires à l'heureux développement de l'enfant. Donc, c'est petit à petit qu'elle va découvrir les véritables dimensions de la personne de Jésus. Et puis, si on lui avait dit à la Vierge que cet enfant était Dieu, elle se serait dit, mais quoi ? Il y a plusieurs personnes en Dieu, alors qu'elle est une bonne juive, bien monothéiste. Donc, on lui aurait comme ça annoncé de but en blanc le mystère de la Trinité. Bon, donc ça l'aurait sûrement gêné. Donc il a fallu du temps. Et d'ailleurs, l'épisode de Jésus retrouvé après son escapade au temple montre qu'elle ne connaît pas encore l'identité divine de Jésus, pas plus que Joseph. Ben voilà. Elle va un peu tirer les oreilles de Jésus en lui disant « Ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Ton père, sur les lèvres de Marie, c'est le père adoptif. C'est Joseph. Et Jésus répond, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Le père, là, c'est pas Joseph. C'est Dieu. Donc cet adolescent manifeste qui il est. Mais les parents sont un peu interloqués, ils ne comprennent pas. Et Marie ne comprend pas que Jésus parle de son Père du ciel. Donc elle n'a pas encore saisi totalement le sens profond de la filiation de Jésus, mais que Jésus commence à lui laisser entrevoir dans cet épisode. Et on nous dit après qu'elle méditait tous ces événements en les gardant dans son cœur. Donc ça veut dire que la Vierge a cheminé comme chaque croyant dans la foi et qu'elle est ainsi entrée toujours plus avant dans la connaissance du Christ et que, bon, très sûrement, qu'à la Pentecôte, elle a réalisé que ce Fils était non seulement le Messie, promis à Israël, mais le Dieu d'Israël et le Dieu de toutes les nations. Alors vous avez un développement intéressant dans l'encyclique de Jean-Paul II, Redemptoris Mater, sur la foi de la Vierge. Mais cette fois, c'est au pied de la croix qu'elle va atteindre son summum, sa plénitude. Voilà ce qu'écrit Jean-Paul II. Debout au pied de la croix, Marie est témoin, humainement parlant, d'un total démenti des paroles de l'ange. Son fils agonise sur ce bois comme un condamné. Comme elle est grande, comme elle est alors héroïque, l'obéissance de la foi dont Marie fait preuve face au décret insondable de Dieu. Comme elle se livre à Dieu dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à celui dont les voies sont incompréhensibles et combien et aussi comme est puissante l'action de la grâce dans son âme, comme est pénétrante l'influence de l'Esprit Saint, de sa lumière et de sa puissance. Par une telle foi, Marie est unie parfaitement au Christ dans son dépouillement. Autrement dit, ce qu'on voit sur la croix, c'est un condamné, un maudit selon la loi juive, décharné. Et si vous rapprochez les paroles de l'ange, voilà, que son règne n'aura pas de fin, il y a quand même comme une distance. Mais toutefois, Marie qui a gardé en elle, sûrement pour les méditer, ces paroles de l'ange, malgré cet apparent démenti, continue à croire aux paroles de l'ange. Elle a cru contre toute espérance aux paroles de l'ange. Et la tradition de l'Église nous dit qu'elle est la seule à avoir gardé la foi au soir du Vendredi Saint. Autrefois, dans les monastères, peut-être certaines d'entre vous ont vu ça, pour l'office des ténèbres, des jours de la Passion, on allumait un grand chandelier avec 15 cierges. Et puis on les éteignait à la fin de chaque psaume et à la fin de l'office, il en restait un allumé qu'on cachait derrière l'autel. Et l'un des symbolismes, c'était que c'était la foi de la Vierge qui était restée vivace au soir du Vendredi Saint. Donc voilà, hein, Marie dans la foi a adhéré à la prédication de Jésus, elle a gardé la foi au pied de la croix, elle a accueilli avec une joie immense sa résurrection. Il est bien possible, très probable qu'il y ait une apparition du Christ à sa mère. Saint Ignace de Loyola nous en parle dans ses exercices, même si l'Évangile ne nous dit rien. Des peintres ont reproduit, enfin, illustré cet épisode, et dans certaines ville d'Espagne ou d'Italie, il y a le Santo Encuentro. Voilà, une statue de la Vierge, une statue du Christ ressuscité. Et donc, on porte en courant la statue de la Vierge vers la statue du Christ dans la rue, au matin de Pâques. Voilà, la foi populaire a gardé cela. La foi de Marie a été une foi active, en recherche, qui a continué à garder en son cœur les événements de la vie de son fils et à les méditer. Et cela lui a permis de pénétrer toujours davantage dans le mystère du Christ et de son œuvre de salut. Et bien sûr, la Vierge est pour l'Église un modèle. Elle incite l'Église et l'aide à mieux comprendre le mystère et le message du Christ. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Bon, Marie n'est pas seulement la mère du Christ selon la chair, elle est doublement mère de Jésus. Son lien maternel le plus profond avec son fils vient du fait qu'avec Jésus, elle adhère au projet de salut du Père du ciel. Bon, il y a une bonne dame bon, qui voit Jésus et qui lui dit, eh ben, voilà, ta mère, elle a bien de la chance d'avoir un fils comme toi. Voilà. Heureux le ventre qui t'a porté, dit-elle, c'est une orientale, bien sûr. Et les saints qui t'ont nourri. Voilà. Bon. Là, peut-être, un peu jalouse, peut-être, se dit, ah, si mon fils à moi, Benjamin ou Joseph, pouvait être comme celui-là, ça serait très bien. Bon, peut-être. Mais à cette femme qui loue et envie sa mère de l'avoir pour fils, Jésus va dire que heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et il laisse entendre que le bonheur le plus authentique de Marie se trouve à ce niveau, d'avoir écouté la parole de Dieu et de l'avoir mise en pratique. Et cette voie est accessible à tous. Et donc, en louant ceux qui écoutent la parole de Dieu, Jésus évoque la foi de Marie. En louant ceux qui la gardent et la mettent en pratique, il souligne la nécessité d'une vie menée en cohérence avec la parole de Dieu, d'une existence conforme à la volonté de Dieu. Et Jésus reconnaît en sa mère celle qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, et en raison de cette conduite, elle est pleinement sa mère unie à lui dans l'obéissance au Père. Hein, vous savez, il y a un autre épisode où on trouve que ce Jésus, dans sa famille, on trouve que ce Jésus fait scandale en prêchant, en faisant des miracles, enfin on ne sait pas trop quoi, enfin sûrement qui déshonore la famille. Alors donc, il y a une espèce de petit commando, sûrement avec les frères de Jésus, donc ses cousins, puis ils amènent la Vierge Marie, ils font un peu pression. Et puis ils se pointent là, à un endroit où Jésus est en train de parler. Et bien sûr, on lui dit, ta mère et tes frères, ta mère et tes cousins sont là. Qui sont ma mère? Qui sont mes frères? Si ce n'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc voilà. Être la mère du Christ, pour lui, c'est écouter la parole de Dieu et la garder. Donc, communier, voilà la logique. Le lien le plus fort, ce n'est pas le lien de la chair pour Jésus. Le lien le plus fort, c'est le lien de l'esprit où on communie profondément à ce que lui a désiré, faire la volonté du Père. Et ça, bien sûr, la Vierge l'a pratiqué durant toute sa vie. Quant à l'Annonciation, elle répond à l'ange, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle manifeste que depuis toujours, elle a consenti au projet de Dieu. Et qu'elle y consent, même lorsque ce projet est quelque peu déroutant, et qu'il lui demande à elle, qui a voulu garder la virginité pour le Seigneur, de consentir à être la mère du Messie, à l'éduquer, et par la suite à devenir sa disciple. Voilà, Marie se définit comme la servante du Seigneur. Bon, elle a conscience d'être humblement au service de son Créateur. Et cette attitude annonce ce que sera le comportement de Jésus. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ben voilà, Jésus, il a appris à devenir homme, grâce à Marie, grâce à Joseph. Eh bien, en Jésus, dans son éducation, va se refléter l'attitude prise par Marie. Voici la servante du Seigneur d'un côté, et puis le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, la Vierge de Nazareth est imprégnée de la spiritualité, de l'humilité, du dépouillement, de la vie obscure, de l'obéissance à Dieu, dans l'affection qu'elle a portée à Jésus, dans l'éducation qu'elle lui a donnée. Marie a affermi en son fils les résistances aux tentations d'une espèce de messianisme triomphaliste et accaparateur, hein, celui des tentations des herbes. Ah, ben écoute, transforme les pierres en pain, ben, tu fais un tas de miracles, on va te reconnaître comme le Messie. Ah, jette-toi du haut du pinacle du temple, puisque les anges vont venir te récupérer. Ça va faire de l'esbrouf, tout le monde va en parler, on va croire en toi. Et troisième tentation, bon, le démon qui dit, mais si tu te prosternes à mes pieds, tu auras tous les empires du monde. Tentation politique. Jésus a résisté à ces tentations, parce que la Vierge, ben, dans son éducation, a affermi en lui cette résistance à une tentation de quelque chose de triomphant. Donc elle a contribué à former en lui celui qui voulait éviter d'être servi, et chercher à servir. Donc, la disposition fondamentale de servante qui animait la Vierge a donc aidé Jésus à se développer selon sa mission de serviteur. Eh bien, bien sûr, Marie a éduqué son fils, mais bien sûr, Marie est aussi mère et éducatrice de l'Église et des chrétiens. Par son attitude à l'Annonciation, par son influence, ses inspirations, elle invite l'Église à s'engager à la suite du Christ, dans l'abaissement du Fils, dans la voie du service, bien souvent obscure. Et donc, elle est le modèle et l'inspiratrice de toutes les formes de dévouement qui, chez les chrétiens, manifesteront l'intention de servir le Seigneur. Bon, après avoir affirmé qu'elle est la servante du Seigneur, Marie consent à ce que l'ange lui transmet de la part de Dieu se réalise en elle. « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Mais par là, elle manifeste son acceptation de la volonté divine révélée par l'ange. Elle veut y être docile, elle veut s'y conformer, elle fait sien le projet de Dieu en désirant qu'il s'accomplisse. Et déjà est présente en elle ce qui sera plus tard la disposition fondamentale du Christ. Quand la lettre aux Hébreux décrit l'entrée du Christ dans le monde, la lettre aux Hébreux définit le sens de cette démarche par les mots du psaume 39:9. « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Elle nous dit, ben voilà, le Christ en entrant dans le monde dit « Me voici Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. » Et cette attitude a été au cœur de la vie et du ministère de Jésus. Il a été envoyé par le Père, toute son ambition personnelle a été d'accomplir docilement et totalement l'œuvre que le Père lui a confiée. Chez Saint Jean aussi. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. On peut rapprocher cette attitude de Jésus de l'attitude de Marie lors de l'Annonciation. D'un côté, voici la servante du Seigneur, et d'autre côté, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Donc pour elle aussi, sa nourriture, c'était de faire la volonté divine. À Gethsémani, lors de l'agonie, la soumission à la volonté du Père joue un rôle décisif, comme en témoigne la prière du Christ, par laquelle il accepte sa passion et sa mort sur la croix, non pas ce que moi je veux, Père, mais ce que toi tu veux. Et selon la lettre aux Hébreux, Jésus, tout fils qu'il était, a appris de ce qu'il a souffert ce que c'est que d'obéir. Bon, là aussi, cette soumission à la volonté divine doit caractériser la vie de l'Église. Ben, dans la prière que le Seigneur nous a livrée, dans le Notre Père, la demande la plus importante concerne la réalisation de la volonté du Père, que ta volonté soit faite. Et donc, le Christ a voulu que son attitude la plus foncière, la plus profonde, pour ainsi dire, se communique à ses disciples et s'exprime dans leur prière, non seulement en vue de leur épanouissement personnel selon Dieu, mais en vue de la réalisation du plan de Dieu sur la terre. Bon, là aussi, dans l'éducation que Marie a donnée à Jésus, elle a affermi en son fils le désir de faire pleinement la volonté de son Père. Cette obéissance à la volonté du Père, qui se manifeste de manière éclatante dans la passion et la mort du Christ, et est appelée à être vécue par l'Église, s'exprime dans la parole prononcée par Marie en réponse au message de l'ange. C'est ce désir profond de correspondre à la volonté de Dieu qui a permis au plan de Dieu de se réaliser par la venue du Fils de Dieu en notre chair. La parole, la réponse ou la question plutôt de Marie à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» Ça témoigne de la détermination de la Vierge à garder le célibat, la détermination de Marie à demeurer vierge pour Dieu. Et donc, elle n'hésite pas à présenter ce propos de virginité comme une difficulté au message de l'ange. Elle se démarque de la tradition juive. La tradition juive, c'est quoi ? C'est le psaume 127. Une famille, beaucoup d'enfants, c'est le signe d'une bénédiction. Et on est dans une civilisation patriarcale, le plus possible de garçons. Donc, le célibat n'a pas de valeur chez les juifs. Il y a le prophète Jérémie qui est célibataire. Il y a Jean-Baptiste. C'est tout. Et, bon, quand on voit ce Jésus qui n'est pas marié avec ce groupe des apôtres, ben voilà, il y a un terme injurieux qui lui est adressé. On dit « c'est un eunuque ». Bon, terme fort. Bon, voilà ce qu'il dit. Et Jésus va, si je puis dire, renvoyer la balle. Il va faire l'éloge de ce mode de vie où il s'est engagé avec ses disciples. Et bon, il y a des eunuques qui se sont rendus eux-mêmes tels à cause du royaume des cieux. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Voilà ce qu'il dit. Donc, il répond aux accusations méprisantes de ses adversaires et à l'injure qui lui a faite. Donc, Jésus indique le motif fondamental de ce renoncement au mariage et, bien sûr, la paternité. Ce renoncement, c'est à cause du royaume des cieux, qui s'étend en vertu d'une fécondité spirituelle. En employant l'image dure de l'eunuque, Jésus se montre conscient du sacrifice que constitue le célibat. L'image fait comprendre la privation imposée aux tendances profondes de l'homme, et il ne s'agit pas seulement d'une nouveauté par rapport à la mentalité juive, mais d'un dépassement des revendications les plus naturelles de l'être humain. Voilà, celui d'avoir une vie sexuelle et d'avoir une progéniture, d'avoir des enfants. Et ce dépassement est encore souligné. Jésus affirme « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Donc, seul un don spécial de Dieu peut faire apprécier cet état du célibat consacré. Et ces indications de l'Évangile mettent en lumière la nouveauté du célibat prôné par Jésus, et ils éclairent le propos de virginité de Marie. Ce propos, ce désir de garder la virginité, était nouveau dans un milieu où la stérilité de la femme était jugée comme une honte. On pense à Élisabeth, celle qu'on appelait la femme stérile. Bon, c'est bien sûr très sympathique. Et où la fécondité maternelle apparaissait comme la richesse essentielle de la personnalité féminine. Marie ne s'est pas engagée dans cet état d'épouse et de mère, au sens des Juifs, parce que le royaume des cieux inspirait sa conduite. Et donc, dans cette initiative, on doit reconnaître une affirmation discrète, remarquable, de la personnalité féminine. Sans chercher aucun éclat, la jeune fille de Nazareth se comporte d'une manière virginale, indépendamment de certaines manières de penser, de vivre du milieu où elle se trouve, comme le fera plus tard Jésus. Dans le secret, elle inaugure la voie de la virginité offerte au Seigneur, voie destinée à une grande diffusion dans la vie de l'Église. Si vous aimez la peinture, si vous regardez les tableaux de Philippe de Champaigne, peint diverses scènes de l'Évangile. Il y a une annonciation, il y a une visitation, il y a bien sûr une naissance de Jésus. Quand vous regardez le visage de Marie, qui tourne sa tête vers l'ange, est à genoux sur un prie-Dieu, tourne sa tête vers l'ange dans la représentation de l'annonciation. Et elle s'adresse à Élisabeth dans la scène de la visitation. Philippe de Champaigne a représenté une femme de caractère. Le visage, on voit que le visage, bon, c'est pas d'une patte guimauve, bon, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Donc Philippe de Champaigne a très bien perçu ce qu'il y a dans ces récits évangéliques. Bon, et dernier verset, je ne prenne pas trop de temps, mais voilà, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est bien sûr une référence au prologue de l'évangile de Jean qui couvre tout le premier chapitre de cet évangile. Tout d'abord, le prologue nous parle de ce qui était, de ce qui fut fait au commencement. Le commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Puis vient, on nous dit que ce Verbe était la vie, qu'il était la lumière des hommes, que la lumière brillait dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Puis vient la première mention du témoignage du message de Jean-Baptiste. Puis sont mentionnés les accueils différents et contrastés du Verbe. Le Verbe était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous, et nous avons eu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Donc, voilà, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, c'est une traduction possible. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Donc voilà, on mentionne ce qui était au commencement, le Verbe de Dieu, puis la création. Ce Verbe, c'est le Fils de Dieu, qui avec le Père et l'Esprit organise toute la création, et qui révèle le Père et son projet pour les hommes, comme une parole, le terme Verbe signifie parole, comme une parole révèle la pensée de quelqu'un. Jésus est celui qui parle du Père, qui nous apprend ce que le Père a à dire, et cela va jusqu'à la plus grande profondeur. Et ce Verbe vient parmi nous, il s'approche de nous avec humilité et douce tendresse. Le Dieu éternel, invisible, inaccessible, inscrutable, indicible, qui déborde tout ce que l'homme peut en dire, se fait chair, devient homme. Le Verbe s'est enfermé dans un petit paquet de chair, tout petit bébé. Et il s'est rendu visible, il a planté sa tente parmi nous. Et celui qui cherche et veut trouver Dieu considère la parole du Christ comme définitive et insurpassable. Le Christ est le dernier mot de Dieu, non pas parce que Dieu, par caprice, voudrait cesser de parler, mais parce que Dieu n'a plus rien à dire. Il a tout dit en son Verbe. Vous avez un texte de Saint Jean de la Croix, le chapitre 22 de la Montée du Carmel, le livre Saint Jean de la Croix intitulé « La Montée du Carmel », qui est un peu le sommet de ce livre. Donc, en Jésus, au sens le plus rigoureux, Dieu s'est réellement dit tout entier lui-même, et Jésus a montré l'amour du Père, surtout en s'exposant sur la croix, en s'exposant, lui, l'innocence parfaite et absolument désarmée, à une mort violente, dans le plus total abandon, révélant ensuite par la résurrection que Dieu était en lui, et donc avec lui. Et on voit que dans le prologue, le Verbe, la lumière qui éclaire tout homme, est à la fois non accueilli, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais aussi reçu par ceux qui lui donnent la foi. Donc nous avons là, par anticipation, tout l'Évangile. Le Christ n'a pas été accueilli, le monde ne l'a pas reconnu, il est venu chez les siens, le peuple juif, et les siens ne l'ont pas reçu. Seuls quelques-uns accueillent la parole du Verbe. Et le Verbe, qui est la vie, la vraie lumière, vient dans le monde pour révéler que, au cœur même du refus, au-delà de tout, le Père aime et offre son pardon. Et donc, bien sûr, nous sommes appelés à nous demander quel accueil nous voulons faire à la lumière qui s'est établie parmi nous au Verbe de Dieu. Et nous est présentée la révélation dans sa plénitude. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Ce Verbe nous apporte la plénitude de la grâce. Saint Jean note, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce sur grâce. si la loi nous fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a dévoilé. Donc le Verbe, le Fils unique de Dieu, nous offre une mesure surabondante de grâce. Et il s'agit de nous offrir nous-mêmes avec le désir d'accueillir plutôt que de repousser le Verbe, la parole qui vient habiter notre cœur, qui vient combler de sa plénitude de Verbe incarné notre vie. Donc, ce Fils unique qui est dans le sein du Père, le Verbe est tourné vers le Père. Il est élan vers lui. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu. Si on s'approche le plus possible d'un point de vue traduction du texte grec, c'est ça qui nous est dit. Donc, cela indique une tension dynamique. Cela exprime le rapport de soumission de Jésus par rapport au Père et le lien qui l'unit au Père. Saint Jean va noter que Jésus accomplit la volonté du Père, qu'il ne vient pas en son nom propre, mais au nom du Père qui l'envoie, qu'il agit selon le commandement du Père, qu'il dit ce qu'il a entendu auprès du Père, qu'il fait, qu'il accomplit les œuvres qu'il voit accomplir par le Père, qu'il rend témoignage au Père. Vous avez tout ça dans l'évangile de Jean. Quand on dit qu'au commencement était le Verbe et le Verbe était tourné vers Dieu, c'est ça qu'on dit. Il était tourné vers Dieu dans le mystère de la Sainte Trinité. Quand le Verbe se fait chair, qui devient homme, il est tourné vers Dieu dans l'accomplissement de sa volonté. D'une volonté qui est une volonté de salut. Donc voilà. Jésus accomplit la volonté du Père. Jésus vient au nom du Père et agit selon l'ordre du Père. Jésus ne dit que ce qu'il a entendu auprès du Père et il en accomplit les œuvres. Et donc, tout cela bien, nous présente une image. Ça correspond à celle d'une personne humaine selon le dessein de Dieu. En regardant Jésus agir et faire la volonté du Père, ben voilà, c'est ce à quoi les hommes et les femmes sont donc appelés. Bon, aujourd'hui, il y a le primat du sujet, toutes les personnes sont égales, libres, co-responsables, aucune ne doit se soumettre, à moins que ce ne soit nécessaire, et dans la mesure où c'est nécessaire pour assurer l'ordre public et une vie commune ordonnée. Et donc, bien sûr, l'homme peut, dans cette perspective, ne pas tenir compte de ses limites. Et ce que nous indique l'Évangile, c'est que pour être parfaitement homme, eh bien, il s'agit de reconnaître qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, et il s'agit de faire sa volonté, de servir Dieu. Servir Dieu, c'est régner, nous dit saint Ambroise. Donc, il est juste, vrai et beau, de reconnaître un Dieu qui est avant moi, plus grand que moi, un Dieu en qui je trouve ma propre vérité, le sens de mon existence. Vivre mes limites avec amour et de façon consciente me comble de joie. Et servir Dieu, c'est donc régner. Cette page du quatrième évangile nous suggère que cette ouverture est trop facilement oubliée par la conscience contemporaine. Bon, conscience contemporaine qui est convaincue des limites humaines à cause de la maladie et de la mort, mais qui les refuse, s'efforçant de les dépasser même par diverses formes d'euthanasie ou d'acharnement thérapeutique. Le prologue nous rappelle à la sagesse, qui est de reconnaître le principe fondamental de notre condition de créature, reconnaître que nous n'avons pas en nous-mêmes la raison ultime de notre action, que étant créé, dépendant, je trouve ma vérité en adorant mon Créateur et bien sûr en adoptant l'attitude de Jésus. Je vais m'arrêter là pour ce commentaire. Là, il y aurait bien sûr bien d'autres choses à dire. Mais effectivement, voilà, si après avoir dit l'Angélus, on le médite, ou si on médite à un autre moment de la journée cette prière de l'Angélus, bon, c'est un peu tout ça que l'on peut y voir. Et bien sûr, en le voyant, vous savez que la contemplation, elle n'est pas uniquement pour que ça satisfasse mon esprit, mon âme et mon cœur, mais la contemplation du mystère du Christ, c'est aussi pour que cela passe dans notre vie. Je vous remercie.
La prière de l'Angélus, vous venez de suivre une conférence du père Philippe Beitia, supérieur du séminaire de Bayonne, conférence enregistrée le 23 novembre 2017 lors d'une récollection de l'amitié montfortaine à l'église Sainte-Thérèse de Biarritz.